Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les deux histoires que vous allez entendre aujourd'hui, d'une certaine façon, ont commencé là. Nous sommes le 28 décembre 2015. Stéphanie Thomas, qui contribue régulièrement au Pied sur Terre, rentre chez elle dans le 11e arrondissement de Paris. Il est environ minuit. Elle a bien remarqué un gars qui presse le pas, derrière elle, mais elle l'a oublié aussi vite. Quand elle arrive devant son immeuble, elle sent quelqu'un se jeter sur elle, comme un tigre ou un lion, c'est la comparaison qui lui vient, en tout cas avec une force animale et une carrure aussi. L'homme la renverse en arrière, Stéphanie sent sous sa gorge quelque chose de froid, un tesson de bouteille. L'agresseur la prévient, « Si tu bouges, je te tranche la gorge ». Puis il la colle contre la porte et lui ordonne de l'ouvrir. Il se passe ensuite quelques brefs instants sur lesquels Stéphanie, depuis, ne cesse de s'interroger. Mille pensées l'assaillent, mille idées la traversent. Elle se souvient s'être dit « Ouf, ma fille est en sécurité ». Et aussi, il faut que je fasse ma valise. Elle part le lendemain en vacances. Ou encore, mais est-ce que je vais lui obéir à ce type ? Elle se rappelle aussi que pendant ce temps, elle a l'impression d'être comme l'homme qui valait 3 milliards. Tous les bruits lui arrivent amplifiés, ceux de la ville, les battements de son cœur. Elle voit aussi tout mieux, plus net, plus loin. Elle sent ses forces décuplées. Elle devient une femme bionique. Une force étrange s'empare d'elle, qui lui commande de se redresser, puis de se mettre en boule et de prendre son souffle le plus profondément possible. Elle a seulement peur de souffler, mais que rien ne sorte. Pourtant, Stéphanie réussit à hurler, se cabre, rue presque, et se sent si forte, si furieuse, qu'à ce moment précis, elle se dit qu'elle est capable de tuer cet homme. Il prend alors peur et la lâche. Stéphanie continue à hurler au secours, puis elle s'effondre comme un chiffon, dit-elle, une poupée molle. Il lui faudra longtemps pour se remettre, pour guérir, pour comprendre, mais quand elle y repense maintenant, elle se dit que ce qui l'a sauvée, c'est peut-être le hasard, ou bien ce qu'on appelle communément l'instinct de survie. Mais elle n'est pas sûre, et c'est pour cette raison qu'elle est allée voir aujourd'hui deux personnes qui se sont trouvées dans des situations aussi extrêmes et s'en sont sorties avec autant de force. Tout de suite donc, l'instinct de survie, par Stéphanie Thomas, deux histoires.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Juliette, j'ai 40 ans, je vis à Bruxelles et il y a une dizaine d'années, je vivais en Amérique centrale pour le travail au Belize, entre le Guatemala et le Mexique et qui donne sur la mer des Caraïbes. Donc, nous vivions, mon ami et moi, à Belize City depuis un an. J'avais 28 ans et Nicolas 33-34. Et en fait, on avait décidé de partir en vacances, retrouver des gens qu'on connaissait à Antigua, exactement. C'est à 40 km après Guatemala City, quand on vient du Belize. Et Guatemala City, c'est à peu près à 8-9 heures de route de Belize City par la route principale. C'est des pistes, ensuite c'est des petites routes, et ensuite finalement c'est une autoroute qui va du Honduras à Guatemala City, mais ce ne sont que deux voies, hein. Voilà. Donc après 6-7 heures de route, il nous restait que une cinquantaine de kilomètres avant Guatemala City. Il faisait très beau, c'était un vendredi, en début d'après-midi. Cette zone, c'est de la forêt en fait, c'est de la jungle. Donc à un moment donné, coincé un peu dans les embouteillages, il y a une voiture qui nous double assez vite avec un pick-up avec 5 personnes à l'arrière, armées, nous montrant des badges de police et nous empêchant d'avancer plus loin, et nous menaçant avec des armes. Donc ils sautent du pick-up, donc on était presque à l'arrêt de toute façon dans un embouteillage et donc on n'a pas eu d'autre choix que de nous arrêter. Et ils sont montés dans la voiture, ils étaient 5. Et là, on n'a rien compris, on avait vraiment cru que c'était la police, puis en fait, on s'est dit, c'est pas possible. Nos quelques mots d'espagnol nous ont servi à comprendre que c'était pas du tout la police, en fait. Ils ont pris mon ami à l'arrière, donc ils étaient 4 à l'arrière. Il y en avait un qui est passé avec moi et qui m'a pris sur ses genoux avec une arme sur la poitrine, en me mettant la main sur les yeux. Et donc, quelqu'un a pris le volant pour continuer. Ça a duré une bonne dizaine de kilomètres. Pendant tout ce trajet, pendant ces 10 kilomètres, ça a été juste réfléchir à dire, froidement à ma vie, à comment ces balles allaient faire un impact sur moi. Je voyais pas d'autre solution, il y avait trop d'armes, il y avait trop de gens, enfin, c'était pas possible que ça se finisse bien. Et en fait, à un moment donné, ça a complètement switché, donc au bout de ces 10 kilomètres, la situation se dégradait en fait. J'avais une main sur les yeux, mais j'arrivais quand même à voir un peu ce qui se passait. Ils ont commencé à ouvrir une barrière en milieu de la forêt et nous faire entrer dans un espèce de chemin boueux et fermer la barrière derrière nous. Et là, ils commencent à nous amener sur une piste de boue au milieu de la jungle et on ne voyait pas où on allait, quoi. Sur le coup, on ne comprenait pas, ils se sont arrêtés et en fait, ils avaient mis la voiture dans un... Elle ne pouvait plus avancer, quoi. C'était pas un 4x4 et ils étaient complètement coincés dans la boue. Et donc là, on s'arrête, et ils nous font sortir, ils nous font enlever les chaussures, et ils nous attachent en fait avec les lacets, ils nous mettent dans la boue. Donc on avait évidemment les armes pointées sur les tempes, moi j'en avais une sur la poitrine. Et là, en fait, donc ils nous posent plein de questions, est-ce que vous avez des armes, est-ce que vous avez de la drogue, est-ce que vous avez de l'argent? Et donc on commence à répondre aux questions, non. Et en fait, la situation s'est calmée tout de suite, et c'est là où... Connaissant la zone, on a tout de suite compris que c'était des paramilitaires et c'était pas des gangs. Les gangs nous auraient tués tout de suite. Et des paramilitaires, qui ont plus l'habitude de faire des braquages, étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus organisés pour braquer les gens, quoi. En fait, ce sont des anciens ou militaires ou policiers qui ont gardé leurs armes de service. En fait, c'est ça, les paramilitaires. Et qui s'en servent pour gagner de l'argent, quoi. Donc oui, ils étaient plutôt... Il y avait un jeune dans le lot qui, moi, me faisait peur parce qu'on sentait qu'il était pas très à l'aise avec son arme. Mais sinon, non, ils étaient assez calmes. Ils avaient quoi? Ils étaient entre 40 et 50. Donc, ils ont démonté la voiture, ils ont ouvert nos valises, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre. Donc, on avait évidemment appareil photo et tout, donc ça, ils ont tout pris. Les chaussures, enfin, tout ce qui les intéressait. Nos affaires étaient éparpillées autour de la voiture, on était en jungle. Donc, à part ce chemin de terre, tout le reste, c'était des arbres et la jungle. Donc Nicolas avait été attaché. Et j'ai eu très peur en fait qu'ils se servent de lui pour me faire répondre aux questions. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Mais j'avais surtout peur qu'ils appuient sur la gâchette parce que il était vraiment clairement à genoux par terre avec une arme sur la tempe. Il fallait qu'on réponde aux questions. Donc là, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient le tuer. Et longtemps après, d'ailleurs, il m'a dit le jour où tu m'as dit ce que tu m'as dit ce jour-là, je savais qu'on pouvait passer notre vie ensemble. Parce que à un moment donné, j'étais sûre qu'ils allaient appuyer sur la gâchette et je lui ai dit quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, je t'aime, ça va aller. Et vraiment, j'étais sûre qu'ils allaient le tuer, quoi. Et en fait, ce qui nous a, je pense, sauvés, c'est qu'on avait des problèmes de carte bleue qu'on n'avait pas reçue de France, donc on avait dû retirer à la banque directement pas mal d'argent avant de partir. Donc on avait pas mal de dollars. Et en fait, c'est ce qui a complètement changé la situation, c'est que quand ils ont vu qu'on avait du cash, ils se sont vraiment calmés. Et arrive la longue liste des cartes qui nous restaient dans nos... Même si c'était des cartes qui n'étaient même pas des cartes de crédit, mais à chaque fois qu'il y avait un numéro sur une carte, ils nous demandaient le code. Et c'est là où vraiment j'ai compris que j'étais dans un mode de survie qui avait complètement changé. C'est-à-dire que Nicolas commençait à donner le numéro de carte et je le coupais pour lui... donner un mauvais dernier numéro, parce que j'ai dit, mais ils vont quand même pas tout prendre, quoi. Et donc, ils ont écouté vraiment tout ce que j'ai dit, en pensant que c'était que je pouvais pas mentir, c'était pas possible, parce qu'une femme comme ça qui pleurait, ça pouvait pas mentir. Et je voyais Nicolas qui me regardait, j'ai dit, mais non, mais t'es folle, quoi, tu vas nous faire tuer. Et en fait, j'avais vraiment cette certitude qu'on allait s'en sortir, quoi. Donc j'ai tenté le coup. Et donc, une fois qu'ils ont eu posé toutes les questions, ils nous ont attachés ensemble, ils nous ont laissés à côté de la voiture et ils nous ont dit, bon, dans 2 heures, vous pouvez partir, on vous laisse les clés de la voiture. On n'a jamais retrouvé les clés de la voiture. Ils ont dû les jeter, mais enfin, comme on était dans la jungle, autant vous dire que c'était pas possible de retrouver ces clés. Donc en fait, c'est là où parfois on se dit la vie est bizarre, c'est que le matin, dans cette voiture, j'avais mis pas mal de nourriture évidemment, mais j'avais des couteaux, j'avais plein de matériel en fait. Donc tous les deux, on va chercher, attachés, on va chercher les couteaux dans la voiture, on se détache. Et donc on s'équipe au maximum avec toute la nourriture qu'on pouvait mettre dans les poches, et on se dit ben, notre seule issue c'est de passer par la forêt, parce qu'on n'a pas les clés de la voiture. Je ne sais pas survivre en forêt personnellement, j'avais jamais essayé avant. Et donc nous voilà partis, on commence à marcher. Et là, je ne saurais plus vous dire pourquoi, comment, mais j'avais oublié quelque chose dans la voiture. Je retourne dans la voiture et avec Nicolas qui me dit « mais dépêche-toi, ils vont revenir, ils vont nous tuer, c'est sûr, s'ils nous retrouvent, on n'a pas donné les bons codes des cartes, on est mort, quoi. » Et j'avais oublié quelque chose dans cette voiture, je retourne dans cette voiture, et là, accroché à un fer à cheval, qui était un porte-clés que les anciens propriétaires de la voiture nous avaient laissé, un double des clés de la voiture. Donc, on se dit bah, « on va s'en sortir, quoi. » Donc la voiture était embourbée, donc on s'est servi de ce qu'on a trouvé pour faire sortir la voiture de la boue, quoi, donc même des affaires à nous. Donc on fait demi-tour là, et là on s'est dit, mais ça se trouve, ils nous attendent, il y a une grande chance qu'il y en ait au moins un qui nous surveille, quoi. Donc là, digne d'un film, je ressors de la voiture, et il fallait ouvrir la barrière de toute façon, mais je ressors de la voiture et je commence à ramper dans la boue pour pas me faire voir, et je remonte vers la route au maximum pour pouvoir ouvrir cette barrière, pour pouvoir qu'on puisse repartir, quoi. J'ouvre la barrière et en fait, il n'y avait plus personne. La nuit était en train de tomber et il y avait même peu de gens sur la route. Donc là, voilà, on est parti là, à fond. De toute façon, même s'il y a une voiture qui nous coupe la route, on rentre dedans. Donc on va à Antigua, finalement, chez ses amis. Et en fait, arrivé à Antigua, on s'est dit, oui, mais c'est bien beau, mais comment on va faire pour rentrer à Belize, puisqu'on va prendre la même route que probablement la police, vu dans la situation où on s'est retrouvé quand ils nous ont braqués. On va passer au même endroit, il y aura les mêmes gens, et la police doit être de mèche d'une façon ou d'une autre, parce que il y a la police sur ces routes, donc s'il se passe quelque chose, c'est qu'ils sont, ils sont assez d'accord avec, quoi. Donc en fait, c'est là où notre hôte, en fait, connaissait très bien le commissaire d'Antigua. Et donc, elle nous sauve, en fait, elle appelle son ami, le commissaire d'Antigua, et qui nous organise, qui était au courant de la situation, et qui nous organise un retour escorté, quoi. Donc, tous les 10 kilomètres, on avait un relais de police qui nous escortait jusqu'à la frontière avec le Belize. Donc, voilà. Moins d'un an après, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble avec Nicolas, et on s'est mariés, et on a eu 3 enfants. Et voilà, en fait, je pense que ça nous a... C'était que du bénéfice, quoi, que quelque chose, un extra de la vie qui fait qu'il faut en profiter, quoi, c'est... C'est une chance incroyable. Je pense qu'on voit la vie autrement, en fait. Quand on se voit mort et que finalement on est toujours là, on a envie d'en profiter, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, début 1989, j'étais au Pérou. Pour réaliser un reportage sur le mouvement de guérilla maoïste, le Sentier Lumineux. Il y a deux mouvements révolutionnaires au Pérou à cette époque-là. Il y a le mouvement Tupac Amaru, qui est un mouvement plutôt trotskiste, et le Sentier Lumineux, qui lui est un mouvement maoïste. C'est un mouvement aussi extrêmement sanguinaire. La personne qui m'a tout appris en termes de presse écrite, qui s'appelle Elisabeth Chemla, me disait « mais tu ne peux pas aller là-bas ». Et moi, quand on me dit non, ben, en règle générale, j'y vais, quoi. Et je décide de partir, voilà. J'arrive un jour à Lima, avec mon caméraman. Mon objectif, c'était de pénétrer la guérilla du Sentier Lumineux. Ça a été très, très compliqué, ça a été très, très long. On m'a... trimballé d'un point à un autre, on m'a fait rencontrer des gens qui me disaient « Sois là, tel jour, telle heure, à l'université, et tu verras, on viendra te chercher parce qu'on te connaît, on sait qui tu es, etc. » Alors ça, ça a duré pratiquement 2 mois à Lima. Et au bout d'un moment, comme on voyait que j'étais pugnace, au bout de 2 mois, ils se sont dit quand même « Il faut faire quelque chose, donc on va l'envoyer à une strate au-dessus. » Donc on m'indique de partir dans la montagne. Et là, je me retrouve à... Huancayo, Je suis avec mon caméraman, Philippe. Là, on m'avait donné le nom d'un hôtel, donc on arrive, on s'installe dans l'hôtel. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai reçu un message qui avait été glissé sous la porte pendant la nuit, où on me donnait rendez-vous à l'université. Alors, mon caméraman, à ce moment-là, m'attend gentiment dans la chambre d'hôtel, parce que, comme la porte ne fermait pas à clé, on ne voulait pas trop laisser notre matériel. Donc, j'arrive à l'université, je vais à l'aile X, et là, j'apostrophe des jeunes. Et là, deux jeunes, des étudiants, 17-18 ans, me demandent de les suivre. Donc, je les suis, on m'ouvre une porte d'un amphithéâtre, on me demande de m'asseoir. Et là, tout d'un coup, je me retrouve avec une cagoule sur la tête. Je me suis figée. Je ne savais plus très bien où j'étais. Au bout de 3 minutes, sous ma cagoule, j'entends des pas. Je sens avec le souffle et le déplacement d'air que une ou deux personnes s'installent en face de moi. Et là, je me prends un tombereau d'insultes, comme quoi j'étais une traître à la cause. Comme je n'appartenais pas à la cause, je ne comprenais pas très bien pourquoi. Que j'étais une sale capitaliste. Ça encore, je pouvais l'entendre, et que j'appartenais à la CIA ou aux renseignements généraux français, et que j'étais donc là pour les infiltrer, etc., etc., etc. Donc après ce tombereau d'insultes, de menaces, etc., on m'enlève ma cagoule, et là j'ai en face de moi deux gars d'une vingtaine d'années avec le flingue, chacun un pistolet sur la table. Ils me demandent ce que je veux en fait. Je dis bah, je veux toujours la même chose. Je veux rencontrer un mouvement de guérilla. J'ai besoin d'entendre, de comprendre. Bon, donc au bout d'un moment, ils me disent que je peux partir, que Ephraim Morotet, donc le père du numéro 2 du Sentier Lumineux, acceptait de me parler. Et comme ce monsieur, qui était un très vieux monsieur, respectable monsieur, et surtout un très grand anthropologue, je me suis dit, de toute façon, c'est pas lui qui a les armes, et c'est pas lui qui mène la révolution, on va bien voir. Moi, je me suis retrouvée quand même face à un homme d'une intelligence phénoménale. Il me dit, je me souviendrai toujours de cette phrase, « Il faut que vous partiez sur le théâtre de la guerre, là où se passent les choses. » Et je dis, mais je fais comment pour aller sur le théâtre de la guerre ? Oh, il faut descendre vers la forêt amazonienne. Donc il me dit, vous devez aller jusqu'à Pucayacu. Je trouve un bus à Huancayo, direction la forêt. Ça nous a pris 4 jours. Donc en fait, première étape, au bout de 4 jours, Tocache, la ville de Tocache. Et là, au bout d'un moment, est arrivé un pick-up. Ce pick-up s'est arrêté à quelques mètres de nous. Ils ont ouvert la portière et ils ont balancé un corps. C'était le corps d'une femme qui avait eu la gorge tranchée. Et elle portait une pancarte sur le poitrail sur lequel il était écrit « Avec son sang, voici comment meurent les traîtres ». En gros, bienvenue à Tocache, quoi. J'ai dit « Ouais ». Effectivement, ça commence bien. Et on a dormi à l'hôtel. Puis le lendemain matin, on va déjeuner dans un truc de poyos, de poulet frit. Et là, on nous donne un message et on nous dit « Soyez demain matin sur la place centrale, vous saurez ce que vous aurez à faire, vous comprendrez. » D'accord ? Donc on part le lendemain matin, on se lève, on part sur la place centrale. Et là, un pick-up arrive. Donc nous, on fout nos sacs à dos, les gens prennent nos sacs à dos, les mettent au fond du pick-up, hein, les sacs de riz par-dessus, tac, 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 et puis on part. Et là, au checkpoint de la sortie du village, les militaires sont là. Ils discutent avec le chauffeur, ils montent dans le pick-up, ils me prennent dans leurs bras pour montrer que j'étais une traître et que là où j'allais aller, que j'avais fait ami-ami avec eux. Les regards des passagers du pick-up sur nous, ça vous transperçait. Là, j'ai dit, il faut qu'on sorte, il faut qu'on parte. On ne peut pas y aller. Là, du coup, c'est fini, c'est terminé. Le piège, il était bien, il était super, bien mis en place. C'est foutu. Je dis à Philippe, prends les sacs à dos. Et il me dit, mais je peux pas. Il y a les sacs de riz dessus. Et puis le pick-up est parti. Donc nous, on est restés dans le pick-up. Et à un moment donné, ils ont tapé, je me souviens toujours, ils tapent comme ça sur la portière, et ils disent Pukayaku. Donc, ils nous virent nos sacs sur la route, nous avec, et on rencontre Georgie. Et ça, il nous attendait. Et puis le lendemain matin, je me souviendrai toujours, on était en train de laver nos chaussettes, et quand tout d'un coup, ils nous disent c'est pour aujourd'hui. Et un pick-up arrive, on monte sur le pick-up. Et là, on part. On vous dit où, je sais pas. On rentre dans, plus ou moins dans la forêt, on traverse, on part. Puis tout d'un coup, il y a un barrage, trois jeunes guérilleros, discussion entre Georgie, le chauffeur, et les trois jeunes guérilleros. Puis hop, tac, et là, j'arrive sur ce qui s'apparente un peu à une espèce de grand terrain de foot, avec des baraques bancs et des jeunes armés jusqu'aux dents. En fait, je venais d'arriver au sein même d'une des branches militaires du Sentier Lumineux. Donc on arrive sur ce terrain de foot, on nous indique une cabane dans laquelle on nous demande de rentrer dans cette cabane. Là, il y a deux jeunes, je dirais quoi, 15 ans. Et à un moment, je crois que ce moment-là, j'ai eu vraiment très très peur. Je voulais prendre un paquet de cigarettes dans mon sac à dos. Je m'approche du sac, je mets ma main dans le sac et là, tout d'un coup, le même gamin qui nous avait accueillis m'attrape par la chemise, il me colle contre le mur, il me met son flingue sur la tempe, il me hurle dessus, il me dit « on n'aurait jamais dû vous accueillir, vous n'auriez jamais dû, vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes qu'une traite et une salope ». Quand il m'a lâché, j'étais une poupée de chiffon, en fait. Là, je me suis dit, là, c'est fini. Fini. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à... Et en même temps, un sentiment de colère. Je me suis dit, mais moi aussi, je peux te coller contre un mur, quoi. Ce qui vous tient debout, c'est la colère qui vous submerge, quoi. Voilà. Il est parti, quand il est parti, il a claqué la porte. Je pense qu'il en a même voulu à son chef de ne pas... qu'il ne lui ait pas donné l'ordre de m'exécuter. Et puis, au bout d'un moment, arrive un type d'une beauté extraordinaire, un Indien, un universitaire. Parce que chaque branche armée est dirigée quand même par des intellectuels, des étudiants souvent. Il s'appelait Alfredo. Il me dit, vous êtes tenace. Je dis, oui, ça fait quand même 3 mois et demi que je cours après, donc je suis plutôt têtue comme femme. Et là, il s'installe, il nous sert un café... Je commence à lui poser des questions. Et là, j'essaie de savoir exactement pourquoi, quoi. Quel est leur objectif? Mais c'était des monologues à la gloire du maoïsme, à la gloire de la révolution, des campagnes vers les villes, à la gloire d'une instauration, d'une république péruvienne communiste et non pas capitaliste. Donc, j'écoute, je prends des notes. Et alors, à un moment donné, je dis, est-ce qu'on peut filmer? Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Immédiatement, ils m'ont dit, ton sac à dos, Philippe, ton sac à dos. Ils ont pris les caméras, les appareils photo, ils ont tout pris. Ils ont dit, pas une seule image. Alors, on est resté à peu près une quinzaine de jours avec eux. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la jeunesse de ces combattants et la violence de ces combattants. J'étais gardée par deux jeunes femmes, Anna et Maria. Enfin, deux jeunes femmes, deux gamines, parce que Maria, elle avait 14 ans. Et oui, je dormais avec Maria d'un côté, Anna de l'autre, et deux Kalachnikov entre elle et moi à chaque fois, quoi. J'en avais une à droite et une à gauche. Et si je bougeais d'un œil, je savais très bien que je pouvais être exécutée. Tout ce que je faisais était observé. Je me souviendrai toujours de ce départ un matin très tôt, vers 5h30, 6h du matin, où on devait partir dans la forêt rejoindre des villageois qui avaient été réquisitionnés par le Sentier Lumineux pour écouter la belle parole d'Alfonso et d'Alfredo. Et ma Maria, qui était à côté de moi, était très fière de m'expliquer qu'elle faisait 80 km par jour avec un barda de plus de 25 kg sur le dos, voire 30, qu'elle adorait manier sa Kalachnikov, la nettoyer, parce que c'était sa compagne, quoi. Et j'ai dit, mais t'as pas peur de mourir ? Elle me dit, mais c'est normal si on meurt. On meurt pour la cause. Et d'ailleurs, toi aussi, tu peux mourir pour la cause. Et je me suis dit, quand je parlais avec elle sur ce chemin, je me suis dit, si on lui demande de m'exécuter, elle le fera sans aucun problème et avec beaucoup de sang-froid. J'étais, en fait, au bout de la mitraillette de cet enfant. Je me disais, j'ai vu trop de choses, je ne vais pas m'en sortir vivante. Et un matin, le camp était en ébullition, en effervescence, ça criait de partout. Je me souviens de Maria qui dit « les militaires ». Et en fait, effectivement, il venait d'apprendre que les militaires de Tocache avaient reçu des renforts et avaient décidé de mener une attaque sur ce qu'ils pensaient être leur camp. Et ils ont donc embarqué tout le monde dans des pick-up. Moi, j'étais là, je dis « et nous ?» Et Alfonso nous a dit « vous êtes libres, mais vous n'avez pas droit d'écrire quoi que ce soit sur nous, seulement 10 lignes à la gloire du maoïsme. » Et là, il nous laisse entre les mains de Jorge, que nous avions donc rencontré 15 jours plus tôt, qui nous avait amené à eux. Et je suis arrivée à Lima, j'avais perdu 7 kilos. J'étais tétanisée, fatiguée, épuisée. Donc, Elizabeth Chemla était là d'ailleurs, au Pérou. Elle était venue parce qu'il y avait des élections présidentielles qui devaient avoir lieu. Et je suis allée la voir. Et là, être face à une amie, prendre un vrai petit déjeuner, je me suis écroulée, quoi. Tout a lâché. Et je me suis vidée par tous les pores de la peau. Jamais été aussi malade de ma vie. En fait, j'ai vomi tout ce que j'avais vécu, quoi. Pour ça, quand j'ai écrit un livre avec Philippe, pour raconter tout ce qu'on avait vécu, quoi. Et tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait entendu. Cette folie humaine, surtout. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one.
C'était l'instinct de survie, un reportage de Stéphanie Thomas, réalisé par Clémence Gross. Merci à Juliette Piriou, à Elisabeth Drévillon et à Laurence Tavernier. C'est Aurélie Marcel, attachée de production des Pieds sur Terre.